Bonjour Jean-Paul Chagnolot.
Bonjour.
Vous êtes président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, et co-auteur du livre « Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie », ça paraît aux éditions Autrement. Alors question ce matin sur les conséquences du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Un mot d'abord sur les réelles motivations du président américain, parce que dans son discours, Trump n'a pas été très précis dans son argumentaire. Pourquoi les États-Unis se retirent-ils de cet accord sur le nucléaire iranien ?
Je crois qu'on pourrait poser le même type de question avec d'autres mesures qu'il a prises et qui sont fondamentales. Je pense par exemple à la question du climat. Comment expliquer ce retrait ? En fait, il avait promis un certain nombre de choses pendant sa campagne électorale auprès d'un électorat ultra-conservateur et beaucoup de choses s'expliquent, je pense, pour des raisons de politique intérieure, d'autant plus qu'en perspective, dans les mois qui viennent, il y a les midterm elections qui sont importantes.
Et on commence aux États-Unis à partir des midterms à cajoler un peu plus les
électeurs traditionnels. Alors je ne suis pas sûr que ça soit lié directement, mais indirectement certainement. Et puis je pense aussi, vous savez, en relation internationale, l'idéologie, c'est-à-dire une certaine conception du monde, est au cœur de sa problématique. Et je crois qu'on est dans une forme d'irrationalité, parce qu'en fait tout ce qu'il va faire là en termes politiques va à l'encontre des intérêts même des États-Unis. Je ferai juste une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut toutes les comparaisons.
Par exemple.
Sur le protectionnisme, bien entendu, mais je pense à quelque chose dont on a peut-être un peu oublié, alors qu'on est toujours dans les conséquences. Je pense à ce qu'a fait Bush en mars 2003. En mars 2003, le président Bush avait décidé que l'Irak détenait des armes de dissuasion massive, alors chacun savait que c'était faux, et avait décidé de l'attaquer et d'agresser au mépris du droit international. Et on a vu les conséquences, elles sont terribles pour l'Irak, pour la région et d'une certaine manière pour le monde. Je pense que beaucoup du terrorisme qu'on a subi était lié à ça.
Vous parlez d'irrationalité, pardon de vous couper, vous parlez d'irrationalité, cela dit, les Européens aussi trouvent que cet accord signé à Vienne en 2015 sur le nucléaire iranien est loin d'être un accord parfait.
Mais alors là, on touche à la question, en fait, du système de non-prolifération. Or, le meilleur moyen de conserver ce système de non-prolifération, c'était de trouver des accords qui limitaient, qui encadraient. Je pense que tous les Européens, plus la Russie, plus la Chine et beaucoup d'autres pays, étaient convaincus que c'était le meilleur moyen de passer par le droit, c'est-à-dire obtenir de Téhéran un certain nombre de concessions majeures, notamment l'arrêt de l'enrichissement d'uranium. Ils ont arrêté la production de plutonium. Donc c'était vraiment les moyens de contrôler.
Sauf qu'en 2025, il y a des clauses qui vont disparaître.
Bien sûr, mais
c'est là la lacune de cet accord.
Mais d'après mes informations, c'est en 2018. Donc commençons déjà par essayer d'assurer les choses. Donc je pense que c'était un moyen de les contrôler. Et puis surtout derrière cela. Et c'est en ce sens que disait qu'il y a de l'irrationalité. C'est qu'il y avait des aspects économiques très importants pour l'Iran. Et si on veut essayer de changer un peu la société, mais faire évoluer la société iranienne, il faut lui donner les moyens économiques. Or, ce qu'attendaient les Iraniens, moi j'étais encore il n'y a pas très longtemps avec des responsables iraniens, et leur sentiment, avant que Trump prenne ses décisions, leur sentiment c'est qu'ils n'avaient pas assez de retombées économiques de cet accord. Et je crois qu'aujourd'hui ça va être pire, bien entendu, pour les raisons qu'on va peut-être évoquer.
Évidemment.
Donc ils sont dans une situation où la population va en souffrir beaucoup.
Alors c'est
beaucoup
pour ça que
et ça c'est très contre-productif quand Trump prétend déstabiliser le régime. En fait, à mon avis, il va le ressouder parce qu'une partie de sa population va certainement se rapprocher du régime face à ces contraintes qu'ils vont subir. Donc je crois que c'est vraiment contre-productif.
À propos de l'Iran, c'est qu'il y a une aile dure qui veut se libérer de toute retenue diplomatique et puis il y a une aile modérée, elle, qui demande l'aide de l'Europe. Qui prend le plus de poids en ce moment en Iran entre les modérés et les durs ?
Dans l'immédiat, difficile à dire, mais je pense que évidemment les durs sont évidemment renforcés dans leur posture. Ils ont toujours critiqué.
Ils n'ont plus confiance en personne de l'Occident.
Et franchement. Aujourd'hui, d'ailleurs, il ne faut plus dire l'Occident. Ça n'a plus de sens, puisqu'aujourd'hui, il y a d'un côté les États-Unis et de l'autre côté, il y a les Européens.
Et la Russie et la Chine.
Mais je parle de l'Occident. Oui, L'Occident, ce concept, il a implosé. Il a implosé. Cette réalité géopolitique qui tentait qu'elle ait existé a implosé. Angela Merkel, qui est quand même peut pas être taxée d'anti-américanisme, a dit très clairement qu'il fallait faire sans les États-Unis. Président Macron dit la même chose. Donc nous sommes aujourd'hui dans une posture où les Européens doivent repenser leur propre destin et leur propre rapport aux relations internationales sans les Américains. Parce que quand on évoque le nucléaire, c'est quelque chose de fondamental. Ça touche le système de non-prolifération dont je parlais tout à l'heure. Ça touche le climat. Autrement dit, c'est la Terre et les hommes qui sont en question. C'est-à-dire des questions majeures, vitales. Et sur ces plans-là, il y a une fissure, une rupture entre la position de Trump, je dirais pas la position des États-Unis, mais la position de Trump et son administration aujourd'hui et les Européens. La réaction d'Obama a été très intéressante. Il est sorti de sa réserve, président.
Il avait prévenu Obama qu'il sortirait de sa réserve à chaque fois que le président Trump serait lui-même.
Parce que c'est fondamental. Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur qui a des conséquences multiples. Alors, au Moyen-Orient, bien sûr, mais je pense dans les relations internationales aussi.
Emmanuel Macron reproche justement à Washington depuis ce retrait, il lui reproche de dicter la conduite des Européens, de dicter la conduite aux Européens. Est-ce que montre cette décision unilatérale de Trump, c'est justement que les Européens sont certes dépendants des États-Unis sur le plan sécuritaire, ils le sont aussi, et ça le confirme un peu plus, sur le plan du dollar, vis-à-vis du dollar et vis-à-vis du business. Sommes-nous durablement soumis à cette extraterritorialité américaine ?
Je crois que l'enjeu est clairement posé. Je crois que nous avons, par exemple, la France, des compagnies, enfin des groupes très importants qui commençaient à s'implanter ou qui se réimplantaient.
C'est le cas d'Airbus, c'est le cas de Peugeot,
Total, Sanofi,
BNP Paribas.
Il y en a toute une série. Il y a une bonne quinzaine de grandes entreprises qui sont implantées. Donc, elles devraient plier bagage parce que à Washington, il y a un président qui a pris cette position irrationnelle. Je crois que c'est inacceptable, parce que ça a été très bien dit par Macron, qu'il faut repenser notre rapport aux États-Unis. Et c'est pas une question simplement économique, je pense que c'est fondamentalement une question politique, c'est une question de souveraineté. Alors peut-être que ça va secouer un peu les Européens qui avaient tendance à s'endormir sous le leadership américain. Là, il n'y a plus de leadership. Et je pense que c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que ça a des conséquences multiples. Et de ce point de vue-là, c'est presque positif. C'est-à-dire que les Européens vont devoir impérativement se reposer bien des questions et agir, et ne pas accepter cette espèce de condominium qu'imposerait Trump.
Alors justement,
je pense que c'est indispensable.
La quinzaine de sociétés françaises en Iran ont... environ 6 mois pour stopper leur business avec l'Iran, a prévenu Washington. Sinon quoi d'ailleurs ?
Sinon, alors il y a deux choses. Ou bien il trouve, parce que dans les mois qui vont venir, il va y avoir des négociations, et c'est là quand on parlait du rapport entre les Européens et Washington, il faut impérativement, non pas pour des raisons simplement économiques, mais pour des raisons politiques, il faut...
La souveraineté nationale.
Bien sûr, la souveraineté nationale. Donc il faut trouver les moyens, et ça c'est très compliqué. Et c'est pas simplement une question de dollars. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc l'affaire est difficile. Sinon, ça veut dire qu'on va pas simplement plier bagages, mais on va plier les chines et revenir... faire revenir nos entreprises et par conséquent Trump pourra gagner. Et ça sera désastreux. Ça sera désastreux pour notre souveraineté et puis je pense vraiment pour notre rapport à l'Iran, ça sera aussi assez désastreux. Parce qu'au fond, aujourd'hui, sans faire de jeu de mots facile, s'il y a un État voyou aujourd'hui, c'est moins l'Iran que les États-Unis. Parce qu'après tout, les États-Unis aujourd'hui ont très clairement rompu leurs paroles, cassé les engagements qui étaient les leurs.
Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. On va reprendre cet entretien après la revue de presse de Frédéric Pommier. Je rappelle aussi le titre de votre dernier livre que vous avez co-signé avec Pierre Blanc. Ça s'appelle « Israël face à Israël », paru aux éditions Autrement. On va donc reprendre cette interview dans un instant. Il y aura aussi Patricia Martin. Il y aura les questions des auditeurs. Vos questions, donc, ce matin à Jean-Paul Chagnolot. Vous nous appelez. C'est le 01 45 24 7000. À tout de suite.
France Inter, le 6-9 du week-end. Intervenez
au 01 45 24 7000. On parle ce matin de la poudrière israélo-iranienne. Et pour répondre à vos questions et à nos questions ce matin, Jean-Paul Chagnolot, le président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Vous avez co-signé avec Pierre Blanc ce livre que j'ai entre les mains, Israël face à Israël. Jean-Paul Chagnolot, l'Iran demande à l'Europe de sauver le compromis, faute de quoi les Iraniens aussi quitteront cet accord. Que peuvent proposer les Européens ? Peut-être passer de la monnaie dollar à la monnaie euro ?
Ça peut être une des solutions, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, ce n'est pas la seule. Parce que je crois vraiment que, comme on l'évoquait aussi, c'est une question politique, c'est une question de souveraineté. Je pense que donc les Européens ont effectivement tout intérêt sur tous les plans, à la fois politique et sur le plan économique, à trouver les formules qui vont permettre de consolider cet accord. Je noterai simplement aussi qu'il n'y a pas que les Européens, il y a aussi les Chinois et les Russes. C'est pas par hasard si Rouhani aujourd'hui est à Pékin et que demain il sera à Moscou, etc.
Il sera mardi à Bruxelles.
Donc c'est tout de même, il faut quand même, quand on parle de l'accord sur le nucléaire, il faut rappeler à vos auditeurs que c'est un accord qui, il y avait d'un côté l'Iran et de l'autre il y avait les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. C'est-à-dire que c'est un accord qui liait la communauté internationale tout entière. Donc c'est la responsabilité de la communauté internationale tout entière aujourd'hui.
Alors on va aller au standard avec une première question de Laura est en ligne. Bonjour Laura.
Oui, bonjour Patricia Martin, bonjour Éric Delvaux.
Bonjour.
Et bonjour Monsieur Chagnolo, que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Et vraiment, vous n'êtes pas très, très présent dans les médias, sauf sur Radio France. Je voulais dire aux auditeurs, il faut remercier le service public, car si on n'a pas, grâce au service public, France Inter, Radio France, la chaîne 27, France 3, France 2, on sait ce qui se passe. Autrement, toutes les autres radios, BFM,
invité
trois fois l'ambassadrice d'Israël, et rien, ni M. Chagnolo, à part Public Sénat, voilà, simplement...
Laura, on vous remercie de cette défense du service public, on va s'intéresser à votre question.
Je vous remercie aussi de ce que vous dites, allez-y.
Oui, mais pour moi, je suis malade, je suis alitée sur un lit, je suis en fin de vie. Mais pour vous, pour nous, vous êtes notre ami, vous êtes notre amant, notre femme, France Inter, vous êtes tout.
Et l'antenne vous est ouverte.
Pendant l'été. Voilà, moi je vous pose la question. L'ambassade des États-Unis qui va la semaine prochaine en Israël, moi j'ai bien peur. L'influence qu'a, moi je me pose la question, les faucons et surtout son gendre, Monsieur Kushner, que j'accuse, parce que j'accuse...
Jared Kushner, qui est le mari d'Ivanka Trump, qui est homme d'affaires et influent chez les Trump.
Ah oui, et il est très extrémiste parce que il expliquait que samedi ne voyageait pas. Vous savez, j'ai des couples mixtes chez moi, j'ai toutes les religions. Il ne voyageait pas, il faisait le Shabbat, c'est-à-dire samedi, il fallait pas prendre l'avion, rien du tout. Et il fait tout pour sa fille. Et vous savez qu'il est complètement.
Laura, merci de cette intervention. On peut hélas pas passer non plus toute la matinée à entendre vos commentaires. Merci en tout cas de les avoir prononcés pour susciter la question que je repose à Jean-Paul Chagnolo. Les faucons auprès de Donald Trump, ils sont réellement puissants? Que veulent-ils?
Vous savez, depuis plusieurs mois, au sein de l'administration américaine, il y a eu beaucoup de changements. Et à chaque fois, le changement allait dans le sens des faucons. Et le dernier en date, c'est John Bolton. Et John Bolton, c'était celui aussi qui a été pendant quelques années du temps de Bush, pas longtemps, représentant des États-Unis aux Nations Unies. Et c'est lui qui disait, par exemple, aux Nations Unies, les Nations Unies n'ont pas besoin de tant d'États, les États-Unis suffisent. C'est vous dire un peu le.
Et il est aujourd'hui
conseiller au sein de la sécurité nationale. Donc c'est vraiment, effectivement, ce sont des gens qui sont. Et puis c'est pareil pour Pompeo, c'est pareil pour Mike Pence, le vice-président. Enfin, c'est vraiment une équipe de faucons, et c'est pourquoi. C'est extrêmement déstabilisateur sur le plan global, pas simplement par rapport au Moyen-Orient.
Patricia Martin.
Une question plus de politique intérieure pour Israël, avec cette menace donc des Iraniens et du Hezbollah qui sont bien implantés en Syrie, qui constitue donc un péril grave. Hein. Est-ce que ce n'est pas finalement tout bénéfice pour Benjamin Netanyahou qui peut constituer comme ça une sorte d'union nationale autour de lui?
Dès qu'on parle en Israël de questions sécuritaires, il y a évidemment aussitôt un rassemblement national, une unité nationale. Ça, c'est incontestable. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Donald Trump, alors les faucons israéliens, évidemment, s'entendent très bien avec les faucons américains. Et donc, il a aujourd'hui un espace de liberté de manœuvre assez considérable. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer dans quelques jours avec l'ambassade américaine qui va être ouverte symboliquement au moins à Jérusalem, évidemment, va dans le même sens. Mais tout ça, c'est, je le rappelle, au mépris du droit international, qu'il s'agisse de l'accord sur le nucléaire. Il renie sa parole, enfin celle des États-Unis, et par rapport à Jérusalem, il y a encore une résolution du Conseil de sécurité du temps d'Obama, c'est-à-dire en décembre 2016, à l'unanimité, moins l'abstention américaine, mais c'était quand même un soutien des Américains pour dire que le droit international impliquait deux États et que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible. Il rompt tout ça, et ça va avoir des conséquences de moyen et de long terme tout à fait considérables.
Est-ce qu'il y a une opposition structurée face à lui? Une alternative en tout cas
sur la question Benjamin Netanyahou.
Sur la question iranienne, je pense qu'on peut dire que il y a au contraire effectivement un consensus en Israël pour de bonnes raisons. C'est vrai que le Hezbollah est une menace. C'est vrai aussi que les Iraniens cherchent à s'implanter très concrètement en Syrie. Là-dessus, il n'y a pas de discussion possible.
Et pourquoi veulent-ils si les Iraniens veulent s'implanter en Syrie, est-ce que c'est uniquement pour soutenir un pays ami et combattre Daesh et les sunnites qui sont implantés là-bas? Ou est-ce que c'est aussi pour devenir en Syrie une base iranienne, tête de pont, près d'Israël?
Écoutez, je crois que les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'idée, pour les Iraniens, de casser ce qui a été longtemps pour eux un encerclement. Il faut quand même pas oublier dans l'histoire iranienne le fait que pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran, c'est-à-dire entre 1980 et 1989, ils se sentaient pas simplement encerclés, mais agressés. Et l'Occident, là, pour le coup, il y avait une unité occidentale, soutenait les Irakiens. Donc les Iraniens ont cherché vraiment à se désengager. Et du coup, là, on va beaucoup plus loin, parce qu'effectivement, grâce à George Bush, quand je parlais de contradiction tout à l'heure, lorsqu'il a mis par terre, lorsqu'il a cassé le régime de Saddam Hussein, ça a donné un boulevard pour les Iraniens. Donc ils sont aujourd'hui très influents en Irak. Ils sont très influents au Liban, évidemment, avec en plus une victoire politique du Hezbollah tout récemment, et une implantation en Syrie, comme on vient de l'évoquer. Donc c'est sûr qu'il y a cette volonté, mais en même temps, je pense qu'il y a d'autres solutions possibles que le rapport de force, et malheureusement, là, on reste dans le rapport de force pur et simple.
Et il faut dire aussi que dans le passé, l'Iran a plusieurs fois affirmé vouloir détruire Israël, et ce n'a pas contribué forcément.
Mais en même temps, est-ce que ça signifie... Enfin,
on en reparlera. On va d'abord aller au standard, reprendre une question des auditeurs. C'est Frédéric qui est en ligne. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Chagnolo. Ben justement, bonjour, je voulais vous demander un petit peu ce que vous pensez de la mansuétude, pour ne pas dire l'impudité, dont bénéficie l'État d'Israël dans la région. Alors personne n'est tout blanc dans ce Moyen-Orient à perturber. Mais malgré tout, je reviens dessus, je ne vais pas faire la liste de toutes les violations du droit international par Israël. Mais sur deux points néanmoins, l'Iran, d'abord, ne détruira jamais Israël, tout le monde le sait. Israël, puissance nucléaire, ne craint absolument rien. Et les menaces sont fantasmées ou, disons, instrumentalisées. Mais sur deux points, l'Iran actuellement est en Syrie de façon tout à fait légal au plan du droit international. Alors qu'Israël, qui se plaint d'avoir reçu quelques roquettes sur le Golan, occupe le Golan de façon intégralement illégale.
Depuis la guerre des six jours en 67.
Au niveau du droit international, je rappellerai quand même deux points par rapport à l'impunité au niveau, du comportement vis-à-vis de la France. Je rappelle qu'Israël a raisonné un navire français dans les eaux internationales sans que l'on bouge le petit doigt. Et qu'actuellement, M. Salah Hamouri, qui est un ressortissant français et franco-palestinien, qui a déjà fait 7 ans de prison sans que l'on bouge le petit doigt de façon tout à fait illégale, est à nouveau en prison.
Frédéric, il nous reste très peu de temps pour vous répondre. Je vais reposer la question à Jean-Paul Chagnolo. Est-ce qu'Israël fait preuve de mansuétude au regard de la politique et la diplomatie internationale?
Je crois que il y a effectivement des ruptures de droit international qui sont complètement assumés par le gouvernement Netanyahou, et que de ce point de vue-là, il n'y a aucune réaction. Il ne faut quand même pas oublier dans les rapports de force, on ne l'a pas dit encore ce matin, mais tout le monde le sait, c'est qu'Israël est une puissance nucléaire. Est une puissance nucléaire depuis les années 60. Donc en fait, c'est un État puissant à tous égards, avec des alliés très sûrs. Les États-Unis en est une preuve. Donc je crois qu'effectivement, si on voulait penser en termes de droit international, il faudrait aussi penser au fait que, et là c'est totalement occulté par ce qui se passe, c'est qu'il y a une réalité d'occupation. Et ça, c'est à la fois négatif en termes de droit international, mais aussi négatif pour la société israélienne.
C'est ce que vous décrivez dans votre livre Israël face à Israël, c'est que finalement, vous l'appelez un Janus, c'est-à-dire une mythologie à deux têtes, avec à la fois une démocratie et un État colonial. Comment est-ce qu'on peut être une démocratie et un État colonial?
C'est toute la grande question. Je crois qu'on ne peut pas. La réponse est simple. C'est-à-dire qu'en fait, il est incontestable que Israël est une véritable démocratie, avec des limites qu'on peut discuter, mais c'est une évidente démocratie. Mais c'est tout à fait aussi incontestable que c'est un État colonial qui occupe des territoires et qui impose une colonisation à près de 5 millions de Palestiniens. Donc il y a une contradiction dont souffrent les Palestiniens, mais dont souffre aussi la société, une bonne partie de la société israélienne. Donc je crois que si on veut appliquer le droit international, c'est-à-dire finalement le compromis politique sur lequel s'est mis d'accord l'ensemble de la communauté internationale, car quand on parle de droit international, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est le résultat d'un accord politique. Et le Conseil de sécurité a posé des règles très claires, donc il faudrait qu'elles soient respectées. Et il y a deux choses. Il y a un, l'accord sur le nucléaire, on y revient d'un mot, mais c'était un accord fondamental parce que ça permettait par le droit d'avancer sur une situation, et d'autre part, rappeler que pour Israël-Palestine, qu'on a oublié, il faut une solution à deux États.
Et la solution était éventuellement à lire dans ces lignes, la solution, en tout cas les pistes de réflexion.
C'est la solution éventuelle, c'est pas la lecture du livre qui est éventuelle.
Certainement pas. Israël face à Israël, notamment question sur l'identité qui anime toujours cette société israélienne que vous avez coécrit avec Pierre Blanc. Israël face à Israël. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolo. Votre livre sort aux éditions Autrement. Merci et bonne journée. Il est 8h53.